Les podcasts du Collège de France.
Je voudrais d'abord rappeler que le cerveau de l'homme peut être considéré comme la synthèse de multiples évolutions, et si nous voulons débattre entre nous de paroles et musique, nous devons nous rappeler que l'espèce humaine est issue d'ancêtres, depuis des ancêtres communs aux grands primates, et qu'il doit s'être passé une divergence entre parole et langage à un certain moment, j'y reviendrai, de l'évolution des ancêtres de l'homme, et que cette évolution est de type génétique. Il existe aussi, bien entendu, une évolution propre à chaque individu qui est de type épigénétique, où au cours du développement de la connectivité de l'encéphale, certaines distributions de connexions sont stabilisées, d'autres éliminées. Et lorsqu'on parle de langage et de musique, évidemment, on a à débattre de prédispositions innées, mais aussi, bien entendu, d'une empreinte culturelle. Et dans le cas de la musique, ça est particulièrement sensible à propos du tempérament, dont il sera peut-être discuté au cours de ce colloque. Je voudrais aussi ajouter que notre cerveau est éminemment plastique, en plus que de cet aspect épigénétique lié au développement essentiellement postnatal, nous avons les uns et les autres dans notre cerveau des communications intercellulaires extrêmement flexibles, et cela dû au changement d'efficacité de nos contacts synaptiques dans des domaines de temps de quelques millisecondes. Nos communications cérébrales vont limiter la perception de signaux sonores à des domaines de temps qui sont évidemment beaucoup plus longs, puisqu'il s'agit de la milliseconde, la centaine de millisecondes ou autre, que dans nos ordinateurs, les communications électroniques qui peuvent se produire entre processeurs. N'oublions pas que dans le cas en particulier du langage, mais évidemment bien entendu également de la musique, en plus de ces évolutions au niveau de l'individu, des évolutions sociales et culturelles se sont produites, et cela au cours de milliers, voire de millions d'années, et que une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est de stocker en dehors de son cerveau des mémoires plus stables que nos mémoires cérébrales, par exemple par l'écrit, et n'oublions pas qu'on peut écrire le langage, mais aussi la musique. Stanislas a souligné cet aspect hiérarchique. Je soulignerai également l'aspect parallèle, puisque précisément notre cerveau est capable de traiter, peut-être même simultanément dans le cas du chant, paroles et musique, et que nous ne pouvons pas évidemment tenter d'expliquer quoi que ce soit de l'une et l'autre de ces productions sociales simplement au niveau moléculaire, bien que je l'ai dit, il existe une contrainte à ce niveau essentielle liée à l'évolution, mais nous devons prendre en considération des niveaux d'organisation plus importants, et il va y avoir entre le singe et l'homme, j'y reviendrai, des traits communs au niveau du système auditif, mais à un certain stade, une divergence entre parole et musique, et c'est évidemment extrêmement important pour nous d'essayer de saisir où se situe cette divergence. Je ne traiterai pas de cette question, puisque j'imagine le colloque entier est dévolu, mais je voudrais souligner que pour cela, on est obligé de faire appel à des niveaux d'organisation qui sont supérieurs à ceux des simples circuits réflexes ou des simples représentations centrales, mais qu'on aborde des niveaux qui sont ceux non seulement de l'interaction sociale, mais également de la conscience, et également de la conscience sociale, c'est-à-dire de la communication consciente au niveau de la société. Et c'est ce qui se passe, évidemment, dans le cas de la parole et de la musique. Je voudrais aussi souligner que notre cerveau fonctionne non seulement d'une manière bottom-up, de bas en haut. Évidemment, quand on discute de parole et langage avec un neurobiologiste, la tendance tout de suite est de se dire, eh bien voilà, il y a des mécanismes perceptifs, commençons par la perception. En fait, je voudrais dire que notre cerveau procède de manière différente. On sait à l'avance si on va entrer dans un dialogue, parler ou écouter de la musique, et que en fait notre cerveau fonctionne essentiellement en fait de haut en bas, c'est-à-dire qu'il est capable de former des représentations, d'élaborer des intentions qui vont orienter l'écoute vers la parole ou le langage. Et je tenais à souligner cet aspect-là qui est souvent oublié de l'approche neurobiologique ou de l'approche neurophysiologique, mais qui effectivement a lieu lors de la perception de la musique ou de la parole. Donc, un cerveau qui est la synthèse de multiples évolutions et qui fonctionne de manière concomitante, de manière hiérarchique et parallèle, et de bas en haut et de haut en bas. Voilà peut-être une définition un peu simplifiée et simpliste du cerveau de l'homme, mais je pense qu'il faut prendre en compte ces divers aspects pour arriver à débattre de manière à peu près rationnelle, je dirais, et plausible de toutes ces questions, et en particulier d'avoir un dialogue interculturel entre spécialistes de disciplines différentes. Si on ne prend pas en compte ces aspects de niveau d'organisation, je pense que nous serons dans un dialogue de sourds. Or, justement, ce n'est pas du tout notre problème aujourd'hui. Alors, entre parole et musique, évidemment, il y a au départ la physique des sons. Je ne vais pas du tout détailler cet aspect-là des choses, et je pense que Christine Petit vous en parlera. Mais il est évident qu'entre la parole, le bruit, qui est évidemment aussi un type de son auquel nous sommes exposés en permanence, malheureusement, le chant et la musique, eh bien, les signaux physiques vont différer, bien qu'il s'agisse dans tous les cas d'ondes sonores, et qui vont être perçus par notre appareil auditif. L'éventail des fréquences est évidemment extrêmement différent entre la parole et la musique, et même entre le chant et la parole. Ce qui va compter, c'est évidemment non seulement le spectre de fréquences, mais l'organisation de ces oscillations physiques qui vont être évidemment captées par l'oreille interne, mais surtout interprétées par notre cerveau. Et l'entrée des signaux sonores se fait évidemment par notre appareil auditif. Et je voulais souligner un aspect qui, évidemment, peut paraître tout à fait de bon sens pour les physiologistes, mais moins peut-être pour ceux qui ne le sont pas, c'est que tous les sons que nous percevons, qu'ils soient sonores, qu'ils soient de la parole ou de la musique, vont en fait passer par le même canal au départ. Et je crois que et ce canal est évidemment un canal physiologique, physique, que je illustre ici très simplement, parce que encore une fois, Christine va vous le détailler. Mais ce qui m'importe à ce niveau, c'est de dire simplement que les sons entrent dans notre oreille et sont captés par des cellules sensorielles, et que la capture de ce signal physique transforme ce signal physique en signal physiologique, qui est un autre signal physique. Donc, nous passons de vibrations sonores à des trains d'impulsions nerveuses qui vont entrer dans notre système auditif. Et ce que je voulais souligner, c'est que non seulement il y a un mécanisme de transduction physique-physique, en quelque sorte, mais avec un changement de code, bien entendu, mais également que le nombre des cellules qui sont engagées, par exemple, dans la perception de cette œuvre de Messiaen que vous avez entendue ou pas entendue tout à l'heure, et ce nombre de cellules est évidemment extrêmement restreint. C'est-à-dire que tant pour la parole que pour la musique, un très petit nombre d'éléments sensoriels est capable de capturer l'ensemble des signaux qui sont ensuite traitées par notre cerveau. Ces voies donc communes à la parole et à la musique montent jusqu'au cortex auditif. Et ce qui est important, c'est que ce cortex auditif commence à être assez bien connu. Le système visuel l'était beaucoup plus jusqu'à présent, grâce entre autres aux travaux de collègues comme Mortimer Mishkin ou Rochecker. Et vous voyez ici le cortex auditif chez le singe et l'ensemble des circonvolutions qui y participent, qui, chose intéressante, se superposent pour partie avec le système visuel. Vous connaissez la synesthésie, hein. Le premier cliché que j'ai montré concernant Messiaen et Kandinsky était précisément délibérément choisi pour montrer que certains artistes mêlent justement la vision et l'audition. Et il existe aussi dans le cas du système auditif comme dans le cas du système visuel une cartographie cérébrale où on peut distinguer des voies dorsales et ventrales sur d'où ça vient et de quoi s'agit-il. Donc ici il s'agit de cette cartographie du cortex auditif à partir de l'oreille jusque ce cortex auditif temporal, ces voies qui remontent jusque au cortex préfrontal où vont s'élaborer des synthèses. Et il est évident que chez le singe, on ne distingue pas, à ma connaissance, des voies spécifiques centrales où la divergence se produit entre paroles et musique. Les singes produisent des sons, des grognements, des cris variés, qui ont d'ailleurs servi à l'étude et à la différenciation de ces aires auditives. Donc il y a à la fois ici, en quelque sorte, mêlé musique et parole. La parole chez le singe, évidemment, est extrêmement restreinte, bien qu'elle soit, ces cris puissent avoir une signification très définie. Donc, où se produit la divergence entre musique et parole, puisque finalement c'est ça le but de ce colloque. Bon, je vous apporterai pas la solution, mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a une évolution considérable de l'organisation du cerveau entre le singe et l'homme. Beaucoup de ces études ont été faites pour l'audition, en particulier chez le singe, sinon ce sont des organes inférieurs. Il y en a évidemment qui ont été faites chez l'homme, fort heureusement. Mais en ce qui concerne les voix, qui sont parfois assez mal connues encore chez l'homme, vous voyez la différence qu'il y a entre un cerveau de singe et un cerveau d'homme mis à la même dimension. Les aires auditives, après tout, vont différer relativement peu. Elles existent. Ces voix que je vous ai présentées également. Mais où se situe la différence? Où c'est surtout la divergence? La divergence, elle se situe évidemment au niveau du néocortex, qui s'accroît de manière considérable, 40 fois du singe à l'homme, du cervelet, qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui est tout à fait fondamental pour un certain nombre de fonctions dites cognitives, alors que le système olfactif, lui, a tendance à décroître. Donc, vous voyez, on entend et on voit mieux, mais on sent beaucoup moins bien qu'un chien ou qu'un singe. Donc, toutes nos facultés, en quelque sorte, ne s'accroissent pas au cours de l'évolution. Certaines se développent, d'autres diminuent. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est que chacun est familier avec l'idée de différenciation des aires du langage, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, que on retrouve ici. Mais on oublie aussi qu'il y a un autre aspect qui est très important entre le singe et l'homme, c'est la spécialisation hémisphérique. Chacun sait, musique à droite, langage à gauche, c'est une caricature. Je ne traiterai pas de cet aspect-là, évidemment, mais j'espère qu'il sera discuté à l'occasion de ce colloque. Et surtout aussi, évidemment, c'est tout à fait caractéristique ici, vous voyez une expansion extraordinaire du cortex préfrontal. Et si je me permets de souligner cela, c'est que cela va de pair avec des mécanismes d'intégration au niveau, sur lequel je vais revenir dans 30 secondes, qui vont nous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui va faire la différence entre parole et musique. Donc, il y a donc cette évolution du cortex préfrontal, excusez-moi, il y a un séquiment qui accompagne le développement des fonctions cognitives et de la vie sociale, bien entendu, et des communications sociales, puisque parole et musique, c'est avant tout de la communication sociale. Alors justement, j'ai pris cette diapositive pour vous montrer qu'il y a donc des processus d'analyse complexes qui vont se produire entre parole et musique au niveau de notre cortex cérébral, qui ne se produisent pas chez le singe et qu'il va falloir comprendre et analyser. Et je voudrais dire aussi qu'il y a encore d'autres traits qui ne sont pas simplement ceux qui distinguent parole de la musique et qui peuvent peut-être être mis en commun, comme le disait Stanislas, qui aime toujours ramener les choses à des modules préétablis. Bon, c'est parfois l'objet de débats. Il y a ici un exemple assez amusant où vous voyez que le cerveau de l'homme ici va traiter de manière différente l'harmonie, la mélodie, le rythme. Simplement pour vous montrer qu'il y a non seulement divergence entre parole et musique, mais qu'il y a d'autres aspects encore plus élaborés qui sont traités par notre cortex cérébral. Alors, je voudrais terminer dans les 3 ou 4 minutes qui me restent pour répondre à Stanislas qui m'a demandé, surtout parle-moi un peu de l'harmonie. Bon, alors effectivement, on tombe là dans un domaine qui reste extrêmement spéculatif, qui est non seulement celui de ces synthèses mentales au niveau de notre cortex cérébral, dont j'évoquais tout à l'heure l'existence, en plus de ces aspects de diversification que j'ai essayé d'illustrer dans le cliché précédent. Au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre... disons des bruits, des sons, la parole ou des cris, et la musique et la poésie, par exemple, qui sont effectivement des fonctions cognitives de haut niveau. C'est toujours cette phrase de Braque, j'aime la règle qui corrige l'émotion. Je pense que parmi les règles, je ne le discuterai pas aujourd'hui, j'ai fait tout un cours là-dessus, il y a évidemment cette règle principale qui est la règle universelle de l'harmonie, de la cohérence des parties avec le tout, de la composition, que Diderot avait déjà suggéré, le beau et la perception des rapports, le consensus partium. Alors l'idée, c'est qu'évidemment, cette synthèse puisse se passer à un niveau de notre cerveau qui permet cette intégration, et avec Stanislas, on a proposé il y a déjà bien des années, disons que c'est le 10e anniversaire aujourd'hui, peut-être, de cette idée qu'il puisse y avoir, en plus de ces processeurs qui sont très divergents, qui traitent les choses dans le détail, que j'ai essayé d'illustrer par exemple, et on est loin d'avoir complètement déchiffré dans le cerveau de l'homme, loin de là, au contraire, des systèmes de synthèse qui permettent de rassembler les informations au niveau de ce que nous avons appelé un espace de travail neuronal qui serait lié à des neurones pyramidaux dans notre cortex dont le soma est présent dans les couches 2 et 3. Neurones pyramidaux, axones longs qui vont interconnecter les divers territoires de notre cortex cérébral et donner accès, il ne s'agit pas du tout ici de traiter la totalité de la conscience, hein, soyez rassurés, mais déjà l'accès à la conscience est une chose qui est évidemment extrêmement importante et essentielle pour nous tous, et donner donc accès à l'expérience subjective d'être conscient. Alors, voilà une expérience qui est faite chez le singe, et donc qui a déjà les prémices en quelque sorte de cet espace de travail conscient, et on soumet le singe à ces accords consonants ou dissonants. Et évidemment, un groupe de physiologistes, Fishman est le premier auteur, a essayé d'enregistrer dans le cortex cérébral, le cortex auditif, chez le singe et l'homme, disons, les courants... qui sont évoqués par ces accords. Alors, vous voyez ici la différence entre accords consonants et dissonants. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est au niveau des couches 2 et 3, précédemment mentionnées, que se trouve la différence entre consonance et dissonance. Et donc, il puisse y avoir une intégration corticale qui se passe au niveau de cette ébauche de l'espace de travail neuronal conscient que j'ai mentionné tout à l'heure. Non seulement c'est vrai chez le singe, mais évidemment, bien entendu, chez l'homme. Et vous avez ici ces différences entre consonance et dissonance que l'on peut enregistrer avec des électrodes intracrâniales au niveau du cortex auditif chez l'homme. Mais, évidemment, ça ne nous donne pas à entrer à cette... Bon, un petit peu de musique. Ces corrélats neuronaux ici de l'harmonie de la règle de Pythagore chez l'homme qui montrent précisément, vous voyez, une contribution des aires frontales et variotemporales, mais aussi l'importance de l'exercice, puisque la différence est évidemment un peu plus importante chez les musiciens que chez les novices, d'où cet aspect épigénétique dont je parlais tout à l'heure. Également, Stanislas a mentionné cet aspect émotionnel, et je montre ici un travail de Zator, et peut-être qu'Isabelle Peretz reviendra là-dessus, pour montrer que ces synthèses mentales intègrent également, évidemment, les circuits émotionnels. Et ici, c'est les images cérébrales obtenues par le concerto numéro 3 en ré mineur de Rachmaninoff. Je ne sais pas si c'est un concerto qui vous plaît et qui vous émeut, mais chez certaines personnes, il entraîne des frissons. Et ces frissons émotionnels se manifestent par des activations cérébrales qui non seulement font intervenir les cortex frontales, déjà mentionnés, mais aussi les circuits de... évidemment, nous avons entre le fragment des ions, sur lequel vous pouvez voir ici cette complexité rythmique, et également reprise par Sabatier. Évidemment, il y a une évolution considérable qui s'est produite du phragmite et du singe à l'homme, évolution génétique, origine de la culture, justement, qui fait la différence entre les deux types de production sonore que j'ai mentionné tout de suite. Et est-ce que la ségrégation entre culture parlée et musicale, entre parole et culture, se produit au niveau de l'homo habilis? Voilà une question que je soulève. En tout cas, il est certain que la notion de consensus partium, de perception de l'harmonie, au moins sur le plan pictural, existait déjà chez l'homo sapiens il y a 30 000 ans. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet exposé harmonieux dans lequel les parties s'intégraient au tout, les parties musicales et verbales. Malheureusement, le tempo nous mène déjà en dépassement léger de l'horaire, donc je vais appeler tout de suite Christine Petit. Et ce que je vous propose, c'est d'ensuite d'avoir une période de discussion à la fin de l'exposé de Christine, si le tempo est bon, qui nous permettra de poser simultanément à Christine et à Jean-Pierre les questions que vous souhaitez. Alors Christine, comme bien entendu, nous avons beaucoup de chance d'avoir au Collège de France Christine Petit, qui est une grande spécialiste des étapes de l'audition, qui sont évidemment communes à la perception, comme l'a rappelé Jean-Pierre, du langage et de la parole, grande spécialiste de la génétique de l'audition et des troubles de l'audition, de leur base génétique. Et elle va donc nous parler de son titre et entendre les bases physiologiques de l'audition. Christine Petit.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, aux origines du dialogue humain, parole et musique, nous supposons donc que le dialogue humain s'enracine dans les vibrations de corps et d'objets, cordes vocales et instruments de musique et leur perception. Le lien ainsi créé entre deux individus fait naître une réponse de même nature, instaurant la boucle du dialogue. Ce sont les rapports des boucles de parole et de musique, voire leur unicité que nous allons interroger durant ce colloque, comme ceci a déjà été mentionné. Pour l'introduire, je présenterai quelques notions de physiologie auditive, nécessaires, je pense, à la compréhension des exposés qui vont suivre. Je n'aborderai pas une autre boucle, intimement liée à la première ou aux premières, celle de l'émotion qu'exprime et suscite intonation, prosodie, mélodie et même les silences. Tout objet vibrant est potentiellement audible, sous réserve que ces vibrations puissent gagner l'organe récepteur auditif en se propageant dans un milieu élastique, l'air pour les animaux terrestres. Sous réserve aussi que les fréquences des vibrations émises correspondent à celles auxquelles le système auditif est sensible. L'évolution a façonné ce système sensoriel comme tous les autres et pour chaque espèce, il est adapté à la niche écologique qu'il occupe. Mais qui entend dans le règne animal ? En réalité, peu d'espèces. C'est le privilège des vertébrés, à l'exception des plus primitifs. On date son émergence à environ 400 millions d'années. D'abord dévolue à l'analyse des fréquences basses, c'est-à-dire des sons graves. Elle est devenue, au cours de l'évolution, capable de traiter des fréquences de plus en plus élevées, c'est-à-dire des sons de plus en plus aigus. Entendent aussi certains insectes, grillons, sauterelles et d'autres arthropodes, comme les crabes. L'audition participe à la détection des proies et des prédateurs et donc à la survie des individus et des espèces. Cette confrontation de l'individu à ses corps sonores renvoie au concept de scène auditive reconstruite proposé par Albert Bregman. Cette reconstruction de la scène sonore suppose que le système auditif puisse apporter réponse à une série d'interrogations. Combien êtes-vous ? Où êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Et même, que faites-vous ? Voire, m'entendez-vous ? Ce processus d'analyse de scène n'est pas une particularité du système auditif. Le système visuel l'accomplit aussi. La singularité de l'audition par rapport aux autres sens est ailleurs. Elle réside dans son lien avec la communication acoustique, mode d'échange majeur chez les espèces entendantes et plus particulièrement chez celles qui font l'apprentissage des vocalisations. Ces vocalisations apprises chez les oiseaux chanteurs que vous voyez ici, chez certains mammifères, chauves-souris, baleines, dauphins, certains rats et éléphants, et bien sûr chez l'homme, assurent la communication entre les membres d'une même espèce. Sous l'influence sociale, les vocalisations innées produites initialement vont laisser place aux vocalisations acquises. Ces apprentissages requièrent l'audition. Ainsi, chez le nourrisson sourd profond, les lalations émissions de sons plus ou moins articulés ne se transforment pas progressivement en mots, phrases, puis véritable langage. Alors venons-en au système auditif. Physiciens, psychoacousticiens et neurobiologistes contribuent à sa compréhension. Les physiciens sont en quelque sorte du côté de l'objet. Ils cherchent quelles sont les propriétés physiques des sources sonores que le système auditif extrait. De fait, ils ont découvert la plupart des principes du fonctionnement du système auditif, du moins dans les toutes premières étapes du traitement des signaux sonores. Les psychoacousticiens sont davantage du côté du sujet et de la perception. Ils s'efforcent d'élucider comment le sujet attribue certaines qualités à l'objet sonore et quels sont les divorces qui peuvent exister entre réalité physique et perception sonore. Quant aux neurobiologistes, nous venons le voir, ils tentent de comprendre le fonctionnement du système en termes d'activité de neurones et de réseaux neuronaux. La première relation établie entre grandeur physique et perception sonore, on peut dire la première découverte en psychoacoustique, fut celle de la relation qui lie longueur des cordes vibrantes et consonance. Elle est généralement attribuée à Pythagore. Ainsi, deux cordes de même nature, soumises à une même tension, sont dans une consonance parfaite si leurs longueurs sont dans un rapport simple. Si elles sont d'égale longueur, rapport de 1, elles vibrent à l'unisson. Si leurs longueurs sont dans un rapport de 2, les sons sont séparés par un octave, dans un rapport de 2 sur 3 d'une quinte, de 3 sur 4 d'une quarte, etc. D'où l'idée que la perception et la puissance émotionnelle associées à la consonance sont l'expression d'un ordre mathématique de l'univers, idée qui persista jusqu'au XVIIIe siècle. Vint ensuite une série de notions de nature physique, celle de fréquence due à l'abbé Marin-Marsenne, un proche de Descartes. Elle est liée à la répétition des vibrations au mouvement d'aller et de retour des corps vibrants. La fréquence est une mesure du nombre de répétitions par seconde, avec comme unité le hertz, une répétition par seconde. Un son pur a une fréquence unique, qui est celle de l'onde sinusoïdale de pression de l'air. Furent ensuite introduites les notions de fréquence fondamentale et d'harmonique. La fréquence fondamentale est la fréquence la plus faible de la vibration stationnaire d'une corde dont une extrémité est maintenue tandis que l'on imprime un déplacement à l'autre extrémité. Cependant, les corps naturels, pour la plupart, ne vibrent pas à une seule fréquence, leur fréquence fondamentale, mais à plusieurs fréquences. Ils produisent plusieurs sons. Les fréquences de ces autres sons sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale, ce sont les sons harmoniques. Les sons sont aussi caractérisés par leur intensité, soit l'amplitude de l'onde sonore. Quant au mouvement vibratoire des sons, il est décrit par sa phase, qui varie continuellement. Ici, en bas, deux sons de même fréquence et de même intensité décalés dans le temps, ils présentent un décalage de phase. Enfin, les sons diffèrent par leur timbre. Le timbre est, lui, une notion de nature perceptive. Le « la » de 440 Hz, joué par une clarinette ou un hautbois, sonne différemment. Ces deux notes identiques, par leur hauteur, ont des timbres différents. Le timbre est défini comme ce qui distingue des sons de même hauteur, de même intensité et de même durée. Cette définition n'est pas très satisfaisante puisqu'elle dit seulement ce que le timbre n'est pas. Le timbre est conditionné par une variété de paramètres. Il dépend par exemple de l'intensité relative des différentes harmoniques d'un son. Considérons maintenant notre environnement sonore, paroles et musique. Il ne s'agit plus d'un son pur et de ses harmoniques, mais de sons harmoniques complexes pour la plupart. Ces sons complexes ont d'une part une composition fréquentielle ou spectre fréquentiel que vous voyez ici, complexe, et d'autre part, une structure temporelle qui peut elle aussi être complexe. La composante fréquentielle des sons complexes représente chaque fréquence et son amplitude. La composante temporelle décrit quant à elle les variations des composantes fréquentielles des sons au cours du temps. Ces variations s'organisent en réalité souvent en motifs qui se répètent et ces motifs ont une fréquence qui leur est propre. Alors cette dualité spectrale et temporelle des sons n'a aucun sens pour les physiciens, mais nous verrons qu'elle en a un pour le système auditif. Notre système auditif est un système acoustico-électrique dont la résolution fréquentielle est élevée pour les fréquences inférieures à 5 kHz, qui sont pour l'essentiel celles des sons de parole et de musique. Sa résolution temporelle est, elle, exceptionnelle. La résolution fréquentielle est indispensable à l'écoute musicale, la résolution temporelle à la localisation dans l'espace des sources sonores. En revanche, Les performances du système auditif humain sont très supérieures à ce que nécessite la reconnaissance de la parole dans les environnements silencieux. Le système auditif est aussi bien plus efficace que n'importe quel algorithme que l'on sache aujourd'hui produire pour extraire des sons de parole émis dans une ambiance bruitée. Remarquable propriété du système auditif, elle est, comme nous le verrons, aussi son talon d'Achille. Les mécanismes de l'écoute dans le bruit ne sont pas totalement élucidés. On sait cependant qu'ils font au moins appel à des propriétés du système auditif qui, en quelque sorte, tournent le dos à la reproduction haute fidélité du monde sonore physique que je viens d'évoquer. Il s'agit de la recréation, voire de la création du monde sonore qu'opère le système auditif. Ainsi, il amplifie les signaux acoustiques, mais de manière non linéaire. Plus faible est le son, plus le système l'amplifie. Le système permet aussi à un son d'en masquer un autre, ce qui accroît les contrastes entre les sons et donc l'intelligibilité des sons de parole. Il distord les ondes sonores. Il les distord de telle sorte qu'elles puissent masquer un son et donc contribuer aussi à l'intelligibilité de la parole. En distordant les ondes sonores, il compose des sons absents du spectre acoustique initial. Le violoniste, Giuseppe Tartini rapporta en 1754 que si deux instruments jouent simultanément deux notes qui sont dans un rapport fréquentiel d'environ 1,2, des sons additionnels sont perçus par les auditeurs dont les fréquences correspondent à la combinaison aussi bien des fréquences jouées par les instruments que celles de leurs harmoniques. Ces sons sont véritablement créés par l'organe sensoriel auditif. Plus, le système auditif a la propriété d'élaborer la perception d'une fréquence particulière sans en avoir généré l'onde sonore correspondante. Il s'agit de la fréquence fondamentale, j'y reviendrai. Pas plus la perception de hauteur sonore, tony ou pitch pour les anglo-saxons, que celle d'intensité sonore ou sony ne sont de simples représentations de la fréquence et de l'amplitude des ondes sonores. Nous pouvons donc considérer le système auditif sous deux angles, le rêve du physicien et de l'ingénieur aussi, ou l'instrument de la conquête du dialogue. D'abord, le rêve des physiciens. Vrai régal pour les physiciens que le système auditif, puisque certaines de ses performances paraissaient, et pour l'une d'elles, paraît encore défier les lois de la physique. Le système auditif comporte une partie dévolue à la transmission de l'onde sonore, l'oreille externe et moyenne. Parmi les fréquences auxquelles notre système auditif répond, de 20 Hz à 20 kHz, celles inférieures à 500 Hz ou supérieures à 5000 Hz subissent une atténuation de leur intensité lors du passage à travers l'oreille moyenne. Suit le système sensoriel auditif dit périphérique, composé de la cochlée et des neurones qui l'innervent, les neurones auditifs. Dans la cochlée se logent les cellules sensorielles auditives. Elles convertissent l'énergie acoustique associée à l'onde mécanique acoustique en signaux électriques qui sont transmis aux neurones auditifs. Ces derniers codent l'information acoustique sous forme de potentiel d'action, ces trains d'information qu'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre Changeux. L'information est ensuite transférée aux voies auditives centrales qui comportent quatre relais avant de gagner le cortex auditif, ses aires primaires, puis secondaires. Dans les quatre relais centraux, à partir du second relais, convergent des informations venant des deux oreilles et sont extraits d'autres paramètres que ceux que j'évoquais tout à l'heure, comme la durée des sons, la vitesse avec laquelle ils atteignent une intensité maximale. Les physiciens posèrent trois grands principes d'analyse du son dans le système auditif. Celui de l'analyse fréquentielle, celui de la localisation de la source sonore et se faisant découvrir l'extrême précision temporelle du système auditif. Enfin, celui de la nécessité d'un amplificateur de la stimulation sonore dans la cochlée. Comment rendre compte de la sensibilité considérable du système, de son seuil de détection d'une énergie acoustique proche de celle du bruit thermique, alors que l'onde sonore se propage dans le milieu liquidien de la cochlée, qui va donc amortir toute stimulation mécanique. Thomas Gold postula en 1948 l'existence d'un amplificateur mécanique actif au sein de la cochlée. Le principe de l'analyse spectrale des sons complexes par le système auditif est, lui, connu depuis bien longtemps, depuis 1843, grâce à Georg Simon Ohm, qui découvrit les lois de l'électricité qui portent son nom. 20 ans plus tôt, Joseph Fourier avait énoncé le principe selon lequel toute fonction périodique peut être décomposée en une série de fonctions sinusoïdales élémentaires d'amplitude et de phase appropriées. Ohm proposa que l'oreille se comporte comme un analyseur fréquentiel de Fourier, c'est-à-dire qu'elle décompose les sons complexes en leurs fréquences élémentaires. De fait, dans la cochlée, une membrane tendue entre sa base et son sommet se comporte comme un analyseur fréquentiel en raison de ses caractéristiques physiques graduellement variables d'une extrémité à l'autre. Sous l'effet d'une stimulation sonore, cette membrane subit un déplacement maximal en un endroit donné le long de l'axe longitudinal de cette membrane. Cet emplacement est corrélé à la fréquence sonore. Ainsi, une représentation spatiale des fréquences sonores est créée. On parle de carte cochléotopique ou tonotopique. Parce que cette membrane est coupée mécaniquement aux cellules sensorielles, ces cellules seront elles aussi activées à une fréquence sonore donnée. Alors, la tonotopie est le principe fondamental d'organisation de l'ensemble du système sensoriel auditif. Établie au niveau cochléaire, on la retrouve dans tous les relais des voies auditives et au niveau du cortex auditif. La multiplicité de ces cartes tonotopiques indique que les autres paramètres qui caractérisent les sons sont extraits le long des voies auditives et également dans le cortex, et qu'elles le sont dans leur contexte fréquentiel. L'incroyable précision temporelle du système auditif fut révélée par le physicien Lord Rayleigh en 1907. Il montra que la localisation des sources sonores dans le plan horizontal pour les sons de basse fréquence inférieurs à 1500 Hz repose sur la détection de la disparité du temps d'arrivée à l'une et l'autre oreille du son provenant d'une source. Or, le délai temporel minimal décelé atteint chez l'homme 13 microsecondes. Chez certaines chauves-souris, il atteindrait le centième de microseconde. Une représentation spatiale de ces délais temporels à nouveau une carte adossée à une carte fréquentielle est présente dans le second relais central, carte que l'on retrouve au niveau du cortex auditif. Quel est le support de cette précision temporelle du traitement des messages sonores? Un de ces éléments est bien connu. Il s'agit de la transformation de la carte tonotopique cochléaire que nous venons de voir en une représentation temporelle très précise. Je m'explique. Pour les fréquences allant jusqu'à 5 kHz, celles pour lesquelles la discrimination est élevée, les neurones auditifs répondent par des décharges de potentiel d'action par parfaitement corrélée à une phase donnée de l'onde sonore. Ces décharges sont strictement ajustées à la même phase de l'onde sonore. C'est à partir de cette information, fidèle représentation de l'onde sonore, qu'est extrait le délai temporel qui existe entre les ondes qui parviennent à l'une et l'autre oreille à partir d'une même source, délai qui se traduit par un décalage de phase. Alors venons-en maintenant au système auditif dans la conquête du dialogue. Que sont les sons de parole et de musique? Derrière cette question, il en est une autre déjà évoquée. Y a-t-il deux modes de perception distincts des sons de parole et de musique? Voyons la production des sons de parole par le tractus vocal qui permet d'en comprendre leurs caractéristiques. Ici sont schématisées les cavités du tractus vocal de la glotte aux lèvres, entre 17 points dits d'articulation qui, par leur mobilité, modifient la géométrie des différentes cavités de ce tractus. Les cordes vocales, en fait simples replis de la muqueuse du larynx, font vibrer l'air venu des poumons. Elles produisent des harmoniques qui cheminent dans les cavités du tractus vocal, cavités que l'on peut considérer comme une suite de résonateurs. Comme les résonateurs de Helmholtz que nous verrons tout à l'heure, ces cavités amplifient sélectivement une fréquence sonore donnée. La fréquence qu'ils amplifient est celle de leur résonance propre, elle-même conditionnée par leur géométrie. Telle harmonique, parmi l'ensemble des harmoniques d'un son de parole, sera ou non amplifiée par l'une de ces cavités. On nomme, par le terme de formant, les pics de résonance des harmoniques de parole ainsi générées. Or, le tractus vocal est animé d'une plasticité considérable. Les changements dynamiques de sa configuration surviennent à un rythme soutenu qui modifie sa géométrie, parfois de façon très importante, comme lorsque la langue vient se coller au palais. La voix humaine est donc, par excellence, l'instrument des contrastes fréquentiels rapides. Elle peut produire jusqu'à 800 phonèmes distincts, consonnes et voyelles, au rythme d'environ une dizaine par seconde et qui présentent des variations internes de leur spectre fréquentiel avec même des vides sonores pour certaines consonnes. Transition rapide d'un formant à l'autre, montée subite en amplitude, ici en passant du L au A, sont les caractéristiques des sons de parole. Ces contrastes dynamiques ont une amplitude et une vitesse de survenue qui excèdent ce que peuvent produire les instruments de musique. Les sons musicaux sont, quant à eux, catégorisés davantage par leur hauteur et leur intervalle de hauteur. Cela nous renvoie à la notion de consonance-dissonance. Les sons distincts d'une octave, soit par exemple un son de fréquence de 200 Hertz et un autre de 440 Hertz, sont perçus comme consonants, nous l'avons dit. La fréquence de leurs harmoniques respectives coïncide les unes avec les autres. Prenons un son à la quinte, 220-330 Hertz. Une harmonique sur deux du son le plus aigu coïncide avec les harmoniques du son le plus grave. L'intervalle paraît juste. D'où l'idée que la perception de consonance repose sur une fusion des harmoniques réalisée par le système auditif. Ce regroupement des harmoniques bien réelles est aussi à l'origine de la sensation de hauteur sonore par la détection de la fréquence fondamentale qu'il permet. Qu'il s'agisse de la parole ou de la musique, la sensation de hauteur repose principalement sur la fréquence fondamentale. Alors arrêtons-nous un instant sur la fréquence fondamentale. Voici trois séquences sonores, à gauche les ondes acoustiques, à droite les spectres fréquentiels. En haut, un spectre harmonique complexe constitué de trois fréquences, 100, 200, 300 Hz. Sa fréquence fondamentale est donc 100 Hz, il est perçu comme un son de 100 Hz. Dessous, de brèves séquences de bruit qui, par définition, comporte un grand nombre de fréquences différentes. Ces bruits se répètent avec une fréquence de 100 Hz. Eh bien, ces séquences de bruit seront aussi perçues comme un son de 100 Hz, même si son timbre est différent du premier. Dans le premier cas, l'extraction de la fréquence fondamentale est fondée sur le spectre fréquentiel et, dans le second, sur la structure temporelle des signaux acoustiques que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, troisième situation, soit un ensemble de fréquences sonores de 200, 300 et 400 Hz, eh bien, le système va aussi percevoir un son de hauteur sonore de 100 Hz. En d'autres termes, le système détecte la fréquence fondamentale manquante. Et vous en avez une manifestation au quotidien. Les fréquences fondamentales de la voix humaine, principalement masculine, ne sont pas transmises par le téléphone. Pourtant, l'interlocuteur les perçoit. Si sa voix ne lui paraît pas déformée, c'est parce que son système auditif construit la perception de cette fréquence fondamentale à partir du spectre des harmoniques qui lui parvient. La détection de la fréquence fondamentale a d'autres rôles, parce qu'elle se fonde sur le regroupement des harmoniques d'une même fréquence fondamentale, elle les identifie comme provenant d'une source sonore unique et non de multiples sources. Elle permet aussi une appréciation de la longueur des cordes vocales et donc par extension, dans les milieux naturels, du gabarit d'un éventuel agresseur. Elle permet l'écoute conjointe d'un locuteur masculin et d'un locuteur féminin parce que les fréquences fondamentales des sons de parole sont différentes chez l'un et l'autre. L'extraction de la fréquence fondamentale manquante est une fonction ancestrale. On la trace jusqu'au poisson rouge. À travers les exemples que nous venons de discuter, nous voyons s'ébaucher l'extraction de la fréquence fondamentale manquante qui reposerait soit sur les traitements des fréquences harmoniques des sons, soit sur celui de leur structure temporelle. Alors, qu'en est-il ? Le traitement fréquentiel des harmoniques suppose que nous puissions les distinguer les unes des autres lorsqu'elles sont présentes simultanément. Plus généralement, ceci nous renvoie à la question de la distinction de deux sons joués conjointement. Considérons deux sons de fréquence 200 et 230 Hz, par exemple, joués successivement, l'auditeur les perçoit comme de hauteurs différentes. Joués ensemble, ils apparaissent comme un son composite, rugueux et d'amplitude fluctuante. C'est ainsi que les instruments d'un orchestre s'accordent. Ils ajustent progressivement la tension des cordes jusqu'à ce que ces sons désagréables disparaissent. Si maintenant on éloigne les deux fréquences l'une de l'autre, les sons initiaux, joués conjointement, deviennent distincts. Ceci définit ce que l'on appelle la bande critique. Deux sons de fréquences voisines appartiennent à une même bande critique. Si émis simultanément, ils sont perçus comme un son rugueux. Considérons maintenant les harmoniques d'un son. Les premières, celles dont les fréquences sont les plus basses, appartiennent à des bandes critiques différentes. Elles sont dites résolues, elles peuvent servir à l'extraction de la fréquence fondamentale. Au-delà de la sixième harmonique, souvent deux harmoniques peuvent occuper la même bande critique. Et dans ce cas, d'autres mécanismes doivent être mis en œuvre pour extraire la fréquence fondamentale. C'est là qu'interviendrait la structure temporelle du son qui pourrait être le fondement de l'extraction de la fondamentale à partir des seules harmoniques non résolues. Quoi qu'il en soit, la bande critique nous renvoie à la notion de dissonance, puisque deux sons qui appartiennent à une même bande critique joués ensemble sont dissonants. Alors, suivons les sons de parole et de musique jusqu'au cortex. La révolution qu'a introduite l'imagerie fonctionnelle cérébrale dans les neurosciences en permettant de suivre l'activation des aires corticales au décours de la perception a confirmé la latéralisation cérébrale de la perception de la parole et de la musique, établie depuis bien longtemps en se fondant sur l'effet des lésions du cortex observées chez certains patients. Chez la plupart des individus, l'hémisphère gauche est dévolu à la parole, le droit à la musique. L'imagerie fonctionnelle permet de réinterroger beaucoup plus finement cette apparence dichotomie hémisphérique du traitement des sons de parole et de musique dans leur étape finale. S'ancre-t-elle dans les signatures acoustiques distinctes des sons de parole et de musique que nous avons évoqués tout à l'heure, ou bien la perception de la parole dépend-elle de mécanismes spéciaux exclusivement dédiés au traitement des sons de parole? En un mot, et en continuité avec ce que j'ai évoqué, oui, il existe des paramètres physiques, des séquences sonores dont on peut prédire qu'ils activeront préférentiellement, de manière asymétrique, les cortex auditifs. Ainsi, il semble que les sons dont les variations temporelles sont très rapides et ceux dont la fréquence est particulièrement élevée sont traités de manière asymétrique. La résolution temporelle appartiendrait préférentiellement chez la plupart des individus à l'hémisphère gauche et la résolution fréquentielle à l'hémisphère droit. Ainsi, le rapide glissement des formants en rapport avec l'articulation de l'appareil phonatoire solliciterait préférentiellement l'hémisphère gauche. Au-delà, la composition linguistique des sons de parole qui conduit à leur reconnaissance phonétique et à l'émergence du sens implique un contact avec les traces de mémoire et, quelles que soient les caractéristiques acoustiques des sons de parole, cette reconnaissance est traitée de manière asymétrique, généralement à gauche. Pour terminer, un signe à l'adresse de ceux que leur surdité éloigne des échanges sonores. Si les essences sonores sont pertinentes pour les entendants, la parole gestuelle est bien, elle aussi, un vecteur de dialogue. Les messages visuels de la parole gestuelle sont traités dans les aires corticales du langage. Nous pouvons voir là la manifestation d'une certaine indépendance fonctionnelle entre langage et audition. Merci de votre attention.
Merci Christine, c'était vraiment une gageure de nous présenter en un temps aussi court autant de données sur l'organisation du système auditif. Et nous avons le temps pour des questions à Christine ou peut-être également à Jean-Pierre Changeux sur ces bases physiologiques de l'audition. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Monsieur, il y a des micros.
Oui, je pense que cette question peut... Je pense que cette question peut s'adresser à Madame Petit. Vous connaissez sûrement ce qu'on appelle, pour certains musiciens et d'autres d'ailleurs, le concept d'oreille absolue. Bien, ma question est donc la suivante. Est-ce qu'on a une appréhension physiologique de ce type de phénomène? Ou bien est-ce qu'il ressortirait de l'apprentissage, ce que personnellement je ne crois pas.
On sait actuellement qu'il ressort des deux. Soit effectivement c'est une aptitude de naissance, soit ceci peut être acquis. Alors l'approche qui en est développée aujourd'hui repose principalement sur une approche génétique. Il s'agit d'examiner quels sont les gènes qui peuvent être responsables de cette oreille absolue. Alors aujourd'hui, rien n'a encore été publié, mais c'est un domaine de recherche extrêmement actif.
D'autres questions? Monsieur?
Vous avez décrit ce qui se passait chez l'homme adulte et sain. Est-ce que, au cours de l'ontogénèse, tous ces mécanismes apparaissent en même temps, ou est-ce qu'il y a un déphasage entre ces divers mécanismes et ces diverses analyses?
Alors, on a quelques éléments qui sont plutôt des éléments post-nataux, c'est-à-dire que l'on a tendance à corréler avec le fait que la fréquence fondamentale de la voix se modifie avec l'âge, et d'autres éléments également en rapport avec la localisation de la source sonore pour laquelle on peut montrer des éléments de plasticité au niveau cortical qui sont véritablement très importants. Donc c'est un sujet également qui évolue assez rapidement. On attribue à des détecteurs de coïncidence la localisation de la source sonore dans l'espace en ce qui concerne les basses fréquences, et on s'aperçoit que ces cartes de coïncidence évoluent également avec l'âge. En ce qui concerne les données prénatales, on en a évidemment beaucoup moins.
C'est une des questions que je voulais poser, d'ailleurs, peut-être avant de donner la parole à Jean-Pierre Changer. Mais, et bien entendu, le système physique de l'audition évolue, ne fût-ce que parce que la taille de la tête change. Alors, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a une adaptation, tout simplement, à la croissance du système, ou éventuellement un décalage temporaire chez l'enfant entre la croissance physique de l'appareil auditif et la détection des sources sonores?
Oui, à partir du moment où la détection des sources basse fréquence dans le plan horizontal dépend de la diffraction des ondes par la tête et donc est directement corrélée à la taille de la tête, oui, on peut mettre en évidence une variation dans ces délais entre des phases du son qui peuvent être détectées donc, en fonction de l'âge. Et donc il y a une transition dont on pense effectivement qu'elle s'opère autour de l'adolescence.
Vous voulez ajouter des éléments?
Un des problèmes qui nous importe ici, c'est de savoir où se situe la divergence entre la parole et la musique. Finalement, évidemment, il y a une redistribution, comme tu disais, des fréquences élevées et basses entre les hémisphères. Dans le cas de la vision, on a eu tendance pendant un certain moment à penser que le cortex et les fonctions supérieures étaient très importantes dans l'analyse, elles le sont effectivement. Mais en fait, la rétine est capable de faire énormément de choses. Est-ce que la divergence ne se produirait pas plus tôt que le cortex cérébral, c'est-à-dire déjà au niveau thalamique et peut-être même avant, j'en sais rien. Comment tu vois les choses?
Alors, le traitement des ondes sonores et des ondes aussi optiques est différent. Il est différent effectivement dans la répartition des relais, c'est-à-dire qu'on a au niveau de la cochlée un seul relais entre les cellules sensorielles et les neurones, donc un traitement qui, même s'il est complexe, reste quand même relativement rudimentaire, alors qu'il y a une quantité de neurones distincts au sein de la rétine. En revanche, le long des voies visuelles, on va directement à un relais thalamique, avant d'arriver au cortex, oui. Alors qu'au niveau auditif, on a quatre relais
successifs. C'est beaucoup plus complexe. C'est pour cette raison que je posais la question.
Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup plus de traitements dans les voies auditives que dans les voies visuelles, et en particulier traitement à chaque étage de l'information qui vient des deux oreilles.
Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la divergence soit en fait à ce niveau-là, plutôt qu'au niveau du cortex, entre parole et musique, je parle. Comment ça évolue du singe à l'homme, ces systèmes sous corticos? Le cortex évolue évidemment très énormément, mais est-ce que c'est le cas aussi pour les voies sous-corticales?
C'est pas très facile d'aller mettre des électrodes dans les différents relais chez l'homme. Par conséquent, autant on a une information, c'est le singe, qui indique en tout cas qu'au fur et à mesure que le traitement donc, se produit le long des voies auditives, d'une part, l'analyse fréquentielle devient beaucoup plus fine, les bandes de fréquences qui étaient relativement larges au niveau cochléaire deviennent très fines, et puis on a donc ces cartes de délai, bon, puis ultérieurement, ces cartes de fréquence, on a des types de décharge des neurones qui indiquent une prise en considération, par exemple, de la durée du son, que je mentionnais tout à l'heure, ou de la rapide installation d'une amplitude. Donc, une quantité d'autres paramètres sont extraits le long des voies auditives.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.